Dans l'évangile de Luc, au chapitre 9, nous lisons les versets 12 et suivants. Comme le jour commençait à baisser, les 12 s'approchèrent et dirent à Jésus : Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages et dans les campagnes des environs pour se loger et pour trouver des vivres, car nous sommes ici dans un lieu désert. Et Jésus leur dit : Donnez-leur vous-même à manger. Mais ils répondirent : Nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. À moins que nous n'allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. Or, il y avait environ 5 000 hommes. Jésus dit à ses disciples, « Faites-les asseoir par rangées de 50. » Ils firent ainsi, il les fit asseoir tous, et Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il les bénit. Puis il les rompit, et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuassent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Chers amis, frères et sœurs, je voulais vous accueillir avec cette description de la multiplication des pains dans l'évangile de Luc, parce qu'il y a une abondance là-dedans qui me semble bien illustrer ce que peut être la bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'avec très peu de choses, eh bien, les effets sont tout à fait extraordinaires. Et j'espère que, avec les quelques modestes paroles, prières et chants que nous partagerons les uns les autres ici, eh bien, vous pourrez repartir de ce lieu de culte, le cœur plein d'annonces de bonnes nouvelles, regonflé, si je puis dire, pour aller dans la vie, porter le témoignage dans le monde qui en a besoin. Soyez les bienvenus les uns et les autres, évidemment, pour ce Jeudi Saint, ici au Foyer de l'âme. J'espère que vous avez tous les cantiques « Nos cœurs te chantent », surtout les oratoriens que j'accueille tout particulièrement, parce que vous n'avez pas ce type de cantique, mais ainsi est faite la variété des églises et leur richesse aussi. Je vous accueille ceux qui ont l'habitude aussi de venir ici, les pasteurs de l'oratoire et les autres ici présents dans cette salle. Et puis ceux qui sont de passage, comme ça, qui sont entrés en poussant la porte, vous êtes les bienvenus. Venez avec vos convictions, vos certitudes, vos questions, vos doutes, et que sais-je encore. La richesse de l'humain, elle est faite de la diversité et de la variété des êtres humains. Et donc, je crois qu'il ne faut pas perdre de vue cette richesse incroyable. Soyez donc les bienvenus pour ce temps de partage, de souvenir aussi du Jeudi Saint, du dernier repas que Jésus a pris juste avant le vendredi, juste avant qu'il ne soit arrêté. Évidemment, nous sommes là dans la Semaine Sainte et nous sommes en route vers Pâques. Il ne faut pas le perdre de vue aussi. Et alors, j'espère que vous avez le psaume 95 dans vos registres que nous prendrons en entier. Réjouissons-nous au Seigneur.
La main est l'ombre, nous a mis. pouvez prendre place. Nous nous recueillons dans la contemplation et dans la prière. Notre Père, en un soir que ce jeudi nous rappelle, ton Fils a lavé les pieds de ses disciples, lui le Seigneur et le Maître, il s'est fait serviteur. Ton Fils a donné les promesses de la vie éternelle. Ton Fils a rompu le pain et offert la coupe. Seigneur, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est la même voix, ta voix, qui nous invite. C'est la même main, ta main, qui nous tend le pain de vie. C'est la même table, une table autour de laquelle il y a place pour tous et dont nul n'est exclu s'il ne choisit de ne pas y aller lui-même. C'est le même pain, le pain de vie que Jésus appelle « mon corps rompu pour vous ». Et c'est la même coupe du vin que Jésus appelle « mon sang versé pour vous, le sang de la nouvelle alliance ». Et c'est la même prière, la prière qui jamais n'a cessé pour la fidélité de tes disciples et pour l'unité de ton Église, de ton corps. C'est le même amour, l'amour qui va jusqu'à donner sa vie pour ceux qui l'aiment. Oui Seigneur, toi qui es le même, à nous qui sommes les mêmes, faibles et pécheurs, accorde ta grâce et fais prendre conscience de ton pardon. Le même pardon, la même grâce pour chacun de tes enfants, la même foi, la même joie, la même espérance en ton royaume qui est déjà là, en nous et parmi nous. Amen.
Chers frères et sœurs, c'est dans l'Évangile selon Marc que nous entendrons cette année ce récit qui met en scène Jésus et les disciples pour ce qu'il est convenu d'appeler la scène, ce repas. Et voici comment l'évangéliste Marc nous raconte ce repas que Jésus prend avec ses disciples. Le premier jour des pains sans levain, où l'on immolait la Pâque, les disciples de Jésus lui dirent « Où veux-tu que nous allions préparer la Pâque ?» Et il envoya deux de ses disciples et leur dit « Allez à la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le. Où qu'il entre, dites au maître de la maison, le maître dit « Où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples ? » Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée et toute prête. C'est là que vous nous préparerez la Pâque. Les disciples partirent, arrivèrent à la ville et trouvèrent les choses comme il leur avait dit. Et ils préparèrent la Pâque. Le soir étant venu, il arriva avec les 12. Pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient, Jésus dit « Je vous le dis en vérité, l'un de vous qui mange avec moi me livrera. » Ils commencèrent à s'attrister et à lui dire l'un après l'autre « Est-ce moi ?» Il leur répondit « C'est l'un des 12 qui met avec moi la main dans le plat. Le Fils de l'homme s'en va. » Selon ce qui est écrit de lui, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Prenez, ceci est mon corps ». Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Et il leur dit « Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour beaucoup. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Jésus leur dit « Vous serez tous scandalisés, car il est écrit « Je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Pierre lui dit « Quand tous seraient scandalisés, je ne serai pas scandalisé. » Et Jésus lui dit « Je te le dis en vérité, toi, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante deux fois, tu me renieras trois fois. » Mais Pierre reprit plus fortement, « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous dirent la même chose. Avant de méditer ce texte, je vous propose de prendre votre recueil « Nos cœurs te chantent » et c'est au cantique 266, non pas le 226, mais le cantique 266, que nous allons chanter les strophes 1, 2 et 3. Cantique 266, levons-nous pour chanter. Prenons place. Chers frères et sœurs, ce repas que Jésus prend avec ses disciples est l'ultime repas de Jésus. Et les évangélistes nous disent que Jésus est tout à fait conscient de cela, conscient qu'il va être bientôt arrêté, et que ce repas est donc le dernier repas, ultime repas de Jésus. Autant dire que ces instants sont nécessairement précieux, ce sont les derniers instants de liberté, et du coup, lire ce récit, c'est lire l'ultime évangile, ce qui pour Jésus constitue le cœur même de ce qu'il désire vivre, le désir profond de Jésus, ou pour le dire dans des termes peut-être un peu plus religieux, le sommet de l'évangile proclamé par Jésus. Et j'aimerais cette année que nous observions tout particulièrement les personnes que les évangélistes ont mises en évidence dans cette assemblée de disciples avec Jésus. Je vais donc relever trois figures sur lesquelles l'évangéliste attire notre attention. La première personne remarquable, c'est évidemment celui qui va livrer Jésus. Et si ici ce n'est pas expressément dit, nous le savons, cet homme, c'est Judas. Judas, dans notre imaginaire collectif, c'est la figure du traître par excellence. À tel point d'ailleurs que son nom a été utilisé pour ce dispositif optique qui permet de trahir l'identité de celui qui se tient derrière la porte. Peu après le repas, Judas est effectivement celui qui va indiquer qui est Jésus à une foule armée d'épées et de bâtons qui va l'arrêter. Mais est-il juste de faire de Judas un traître ? Voilà qui me semble plutôt le trait caractéristique de Pierre. J'y reviendrai dans un instant, bien évidemment. Intéressons-nous à Judas. Il est vrai qu'à première vue, il peut sembler évident que celui qui a vendu Jésus est un être cupide, finalement. Un être qui n'a pas hésité à vendre l'un des siens, son maître, pour quelques pièces d'argent. Mais l'évangéliste Matthieu, en nous rapportant qu'il se suicidera au moment même où il apprend la condamnation de Jésus, nous emmène sur une autre voie. Si la condamnation est contraire à ce qu'imaginait Judas, cela signifie que le projet de Judas n'était pas d'échanger la mort de Jésus contre quelques pièces d'argent. La condamnation de Jésus semble même contraire à ce que Judas espérait ou envisageait. Et en bonne logique, cela veut dire que nous devons en tirer la conclusion que Judas voulait plutôt sauver la vie de Jésus. Pour expliquer cela, je vous propose un petit détour par le livre de la Genèse. Nous sommes au chapitre 37. Nous y lisons l'histoire de Joseph, l'un des fils de Jacob. Et nous apprenons que ses frères étaient particulièrement jaloux de Joseph. Tellement jaloux qu'ils voulaient s'en débarrasser. Et quelle meilleure solution pour se débarrasser de quelqu'un que de le tuer, après tout. N'entendons-nous pas dans les évangiles qu'il vaut mieux qu'un seul meure plutôt que tout le monde s'entre-déchire ? Eh bien, ils envisagèrent donc de tuer Joseph. Mais l'un des frères de Joseph, qui veut le sauver de la mort, trouve une solution, le vendre. Et ainsi, ils en seront débarrassés, mais Joseph aura la vie sauve. Eh bien, ce fils de Jacob qui propose cette idée assez ingénieuse, c'est Judas. Dans les évangiles, l'autre Judas, l'Iscariote cette fois, semble s'inspirer de ce lointain ancêtre. Face à une mort qui semble inéluctable, souvenons-nous que dans les épisodes qui précèdent, Jésus manque de se faire lapider à chaque coin de rue. Eh bien, pour éviter cette mort, Judas semble trouver dans le geste de son ancêtre éponyme un bon moyen de mettre Jésus en sécurité, une sorte de mesure conservatoire. Il sera prisonnier, certes, mais au moins il aura la vie sauve. Notez d'ailleurs que les évangélistes ne disent pas que Jésus est trahi par Judas. Ils disent qu'il est livré, ce qui est sensiblement différent. Seul problème, c'est qu'en appliquant les bonnes recettes du passé, d'un passé révolu, on ne répond pas forcément de la meilleure façon qui soit aux défis du présent. Et en copiant à l'identique la stratégie de Judas, fils de Jacob, eh bien, Judas Iscariote ne préserve pas du tout Jésus, fils de Joseph. Il fait se jeter l'agneau dans la gueule du loup. Autrement dit, Judas est moins la figure du traître que la figure du fondamentaliste, celui qui veut appliquer à la lettre les recettes de son livre sacré, considérant que ce livre a réponse à tout, qu'il suffit de suivre scrupuleusement ce qui est écrit. Mais alors, que signifie que Jésus partage ses derniers instants avec ce Judas ? Eh bien, cela signifie que Jésus indique qu'il ne rejette pas ceux qui ont une vision religieuse diamétralement opposée à la sienne. Deuxième figure emblématique, Pierre. Pierre qui va renier Jésus en dépit de ce qu'il a affirmé. « Oh non, 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 moi je ne te renierai jamais. » C'est le seul d'ailleurs en quelque sorte à renier Jésus, affirmant pas trois fois qu'il ne le connaît pas, qu'il n'a rien à voir avec lui. En ce sens, Pierre trahit Jésus. Mais ajoutons que ce qu'on peut reprocher à Pierre, c'est d'abord une sorte de péché d'orgueil, affirmant que si tous les disciples trouvaient une occasion de chute, s'ils étaient scandalisés, eh bien lui resterait irréprochable. Paradoxalement, Pierre est une figure de la faillibilité totale. À la limite, on pourrait même faire de ce récit le fondement biblique du dogme de la faillibilité. Pierre est une figure de l'intégriste qui considère que sa posture religieuse est incontestable, d'une pureté absolue. Enfermé dans sa certitude, il devient aveugle, aveugle au monde tel qu'il est. Il ne voit rien venir. Il est insensible aux frémissements de la vie, incapable de constater les effets négatifs que peuvent provoquer son intransigeance. Il se veut intègre, ce qui est une belle chose, mais en vérité, il se découvre intégriste. Il ne voit plus où est la justice. Il n'est plus capable d'un amour agapé, comme cela sera particulièrement visible après Pâques, dans le récit final de l'Évangile selon Jean. Où Jésus s'efforce de lui dire « M'aimes-tu ?» avec le verbe « agapé ». Et lui est incapable de cette agapé-là. Alors ce que nous constatons avec ces deux premières figures, c'est que Jésus s'entoure de la crème du pire. Tout à l'opposé d'une joyeuse réunion entre amis, Jésus convoque un ramassis de personnes dont nous ne voudrions pas à notre table. Car les autres disciples, les fameux oligopistoi, les gens de peu de foi, s'ils n'atteindront pas les sommets d'inhumanité de ces deux-là, ne brilleront pas par une foi lumineuse, selon ce que nous rapportent les évangélistes dans la suite du récit. Ce n'est pas les disciples qui seront à faire le pied de grue le matin de Pâques pour vérifier que la pierre est bien roulée, que le tombeau est vide, que le Christ est bien ressuscité. Bref, la compagnie de Jésus fait vraiment peine à voir. Mais c'est celle que Jésus a choisie pour son ultime moment de liberté. Et si nous ne sommes pas attentifs à cela, alors nous ne passons pas seulement à côté de l'Évangile, nous passons aussi à côté de notre propre vocation chrétienne. Car si nos assemblées sont belles, et ce soir notre assemblée est belle, mais qu'elle ne rassemble que ceux qui nous ressemblent, ce qui est quand même un peu le cas. Si nous ne fréquentons que ceux qui sont fréquentables selon nos propres critères, alors nous sommes encore loin assez loin, pour ne pas dire très loin, de ce que pourrait être un christianisme, disons, authentique. Nous constatons ici que la foi chrétienne est une sorte d'option préférentielle pour celui qui est le plus éloigné de l'humanité. Elle n'est pas un club au profil étroit qui tiendrait à bonne distance tout ce qui diffère, ce qui varie, ce qui n'est pas conforme à ce que je suis. Jésus, en rassemblant ceux qui insidieusement lui veulent du mal, atteste de manière radicale qu'il est vraiment venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Jésus n'est décidément pas venu pour ceux qui vont bien, mais pour les malades, pour celles et ceux qui ont des problèmes, de vrais et sérieux problèmes de la vie, avec l'être même de la vie. Impossible dans ces circonstances de se contenter d'une gentille vie ecclésiale entre gens de bonne compagnie, ce qui est bien agréable, mais largement insuffisant au regard de l'Évangile. Impossible aussi de se contenter de relations sociales avec nos clones idéologiques, dans un bon protestantisme qui serait débarrassé de tous les extrémistes et qui finalement trouverait comme critère de validité le seul bon libéralisme authentique, celui qui vibre dimanche après dimanche au foyer de l'âme ou à l'oratoire du Louvre. Jésus, manifestement, ne veut pas de cette pureté religieuse, de même qu'il ne voulait pas d'une pureté sociale ou morale. Notre foi chrétienne nous ouvre à une fraternité vraiment élargie, une fraternité sans frontières, une fraternité qui regarde comme frère non pas celui dont je me sens proche, mais celui dont le Christ s'est approché. J'aimerais maintenant attirer notre attention sur un troisième personnage. Il ne fait qu'apparaître, mais il est décisif. C'est celui que les disciples rencontrent pour savoir où aura lieu le repas. Ici, il s'agit d'un homme portant une cruche d'eau. Beaucoup de commentateurs y ont vu l'allusion à un Essénien, un membre de la communauté des Esséniens. Si tel est le cas, c'est parce qu'il était d'usage à l'époque que les hommes ne portent pas les cruches d'eau. Les cruches d'eau, c'est un truc de femme. Sauf si vous êtes évidemment reclus dans une communauté monastique exclusivement masculine, auquel cas, vous devez bien vous préoccuper des tâches habituellement accomplies par la gente féminine. Un homme portant une cruche d'eau, c'est ce que certains appelleraient de nos jours un geste contre nature, quoique la nature n'y soit pour rien. Intéressons-nous aussi au récit de Matthieu, qui dit les choses sensiblement autrement. Et c'est un récit qui ne manque pas d'intérêt. Jésus dit aux disciples « Allez chez un tel », ce qui, dans le texte grec, est assez curieux puisque c'est un mot unique dans la Bible qui est employé, « deina », un mot indéfini, indéclinable, mais qui est quand même précédé d'un article masculin ici dans ce texte de Matthieu. Et c'est pour cela que ça a été traduit par « un tel » le plus souvent. Maintenant, si on fait le lien avec le trouble provoqué par Marc, cet homme qui porte une cruche, cette convocation du féminin et du masculin ensemble, eh bien, peut-être que chez Matthieu, il y a là aussi l'association du masculin et du féminin, cet article masculin, avec ce qui n'est plus un mot indéterminé et indéclinable, mais peut-être bien la mention d'une fille de Jacob, Dina. Dina, c'est cette fille dont on parle aussi dans le livre de la Genèse, cette fois au chapitre 34, un chapitre qui raconte de quelle manière elle a été outragée, bien avant Jésus, et de quelle manière ses frères, pour se venger, vont manier l'épée en tuant largement. Ce dernier repas de Jésus met donc en scène également cette identité évangélique qui transcende le masculin et le féminin, de même qu'il transcende le juste et l'injuste, l'intègre et l'intégriste, le fondamental et le fondamentalisme. Ici, nous voyons quelques traces d'un récit évangélique qui met en scène le véritable visage de l'ultime, qui va largement au-delà de nos lignes de démarcation habituelles, celles derrière lesquelles nous nous réfugions pour nous créer une petite identité bien bétonnée, bien assurée, bien convictionnelle. Cet au-delà des identités reprend finalement l'idéal de Genèse 1, lorsque l'humain est créé féminin et masculin, assumant l'altérité au cœur même de son identité, assumant lui-même le féminin et le masculin. Et peut-être est-ce cela que Jésus nous rappelle, ce que nous sommes appelés à vivre. Non pas vivre contre les autres, mais vivre en plaçant l'altérité au cœur même de notre identité. Vivre sans chercher à tout prix l'altérité pour l'altérité, mais sans craindre l'altérité. Et peut-être que ce récit du dernier repas de Jésus et de ses disciples, propose la communion comme mode de gestion de l'altérité. Là où nous pensons que la communion, c'est le rassemblement de ceux qui ont quelque chose en commun, eh bien Jésus pose que la communion, c'est le rassemblement de ceux qui auront quelque chose en commun. Autrement dit, nous n'avons pas besoin d'être à l'identique de l'autre pour former tout à l'heure le repas, la table autour de cette table de communion. Et puis rappelons-nous de quoi va être constitué ce repas, du pain et du vin. Peut-être est-ce pour Jésus aussi une manière de renouer avec le projet initial de Genèse 1 encore. Cette nourriture végétalienne qui pose que le sang n'a pas besoin de couler pour que nous nous nourrissions. N'a pas besoin de nous nourrir de la violence pour être. Pas besoin d'un meurtre originel pour fonder une nouvelle civilisation ou, comme avec les enfants de Jacob, pas besoin de faire couler le sang pour assouvir la fureur de vivre qui a été malmenée avec Dina. Peut-être Jésus renoue-t-il avec cet idéal de Genèse 1 en parlant d'une humanité réconciliée avec elle-même, y compris avec celles et ceux dont a priori on ne voudrait pas, celles et ceux dont on se demande même s'ils ont droit de citer parmi nous. Et c'est parce que la communion ne va pas de soi, à vrai dire, qu'elle nous est offerte, librement, par grâce, seule, sans mérite aucun de notre part. Comme un chemin d'humanisation, un chemin d'humanité pour tout un chacun, quelle que soit notre condition, quelle que soit notre étrangeté, ou plus précisément, quel que soit notre sentiment personnel d'une quelconque étrangeté. Amen.
Vers toi, Dieu notre Père, monte en ce jour notre louange pour Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre frère. Par sa vie, il nous a montré la fidélité, la vie, le chemin qui va vers toi, son Père et notre Père. Et la veille de sa mort, il nous a laissé pour nourriture son corps rompu pour nous et son sang versé pour nous, sa parole et sa vie offertes pour que nous les assimilions et que ce soit notre salut. Par ce pain et ce vin nouveau, nous demeurons en communion avec lui, et demeurons en lui, nous demeurons en toi. C'est pourquoi, avec tous les chrétiens rassemblés en cette semaine de Pâques, quelle que soit leur église, nous te faisons place en notre cœur, en notre vie. Trois fois saint est l'Éternel, toute la terre est remplie de sa gloire. Et nous chantons ensemble le 303, la première strophe, ensuite nous égrènerons les autres strophes. Sanctifie, qu'il nous renouvelle, qu'il nous ressuscite, et qu'en recevant ce pain et ce vin, nous puissions communier au corps et au sang de ton Fils. Et qu'ainsi, nous tous qui recevons ce même pain et cette même coupe, nous soyons unis en un seul corps, et nous grandissions en Jésus-Christ, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit. Et nous vous osons dire cette prière que Jésus-Christ nous a laissée, prière qui fait de nous tous des fils et des filles du même Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous abandonne pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
Je suis le pain vivant, le pain descendu du ciel, dit le Seigneur. Si quelqu'un en mange de ce pain, il vivra éternellement. Et je suis le cep, vous êtes les servants. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Nous rendons grâce pour la simplicité de ce pain et de ce vin, la simplicité de ce repas fraternel, la simplicité de la présence divine en Jésus-Christ. Nous rendons grâce pour cette tente élargie, pour notre horizon qui prend l'allure d'un horizon infini. Nous rendons grâce pour celui qui est désormais un frère, une sœur. Amen. Quelle heure samedi ?
Des psaumes, chorales et cantiques de Pâques, les plus connus. Et puis,
oui. deux ou trois petites choses avant de nous séparer. Je vous rappelle que demain soir, vendredi à 19h, nous avons le culte du Vendredi Saint, alors à l'oratoire, ce coup-ci, selon la tradition bien établie, tous les ans. Et puis le samedi à 18h à l'oratoire, il y a Chantons Pâques, si vous aimez chanter des psaumes et d'autres chants, évidemment, vous pouvez vous retrouver donc à l'oratoire samedi à 18h. Et puis, le dimanche prochain, évidemment, à 10h30, j'espère que vous serez soit au foyer de l'âme, soit à l'oratoire, soit dans d'autres lieux de culte, là où vous serez, si vous partez en week-end, évidemment. Je ne vais pas vous lâcher sans qu'il y ait un moment d'offrande. Hein. Le problème, c'est, quand vous avez un pasteur qui a fait quand même 5 ou 6 ans d'études de sciences économiques, vous n'y coupez pas. Mais, ceci dit, si on a partagé la Sainte Seine, il est normal qu'on continue à partager dans nos vies. Et l'offrande a un sens théologique qu'il ne faut jamais perdre de vue. C'est vraiment un moment liturgique important. Quand même, le signe de notre adhésion à l'Église, de ce qu'on peut faire, évidemment, ça va de soi, en fonction de nos moyens. Mais je crois que c'était aussi quand même un beau geste de partage. Voilà, donc je vous invite à participer à ce moment d'offrande. Fred, si tu peux nous jouer un petit morceau d'accompagnement, ce serait pas mal. Père, merci pour ce temps mis à part ce soir, ce mémorial, ce souvenir. Merci pour le partage, pour ce qu'il signifie pour chacune et chacun d'entre nous. Merci pour la réunion de nos deux paroisses et pour l'Église, pour sa richesse, pour aussi ses faiblesses. Merci pour son enthousiasme quand ton esprit vient l'animer. Oui, Père, alors que nous allons nous séparer, nous te prions pour que ton esprit soit vraiment au cœur de chacune et chacun d'entre nous, pour que nous puissions vivre dans ta lumière, selon la vérité. Amen. Je vous invite à vous lever. Voilà, gardez au cœur cette idée que même si nous ne sommes pas parfaits, nous sommes les compagnons du Christ. Gardez cette idée qu'il est toujours là pour le partage, qu'il frappe à nos vies, pour partager sa vie et la nôtre. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde toutes et tous. Allez en paix Allez en paix à jamais. L'Esprit de Dieu est sur vous. Il vous accompagne. Le Seigneur marche sur vos routes et son ombre se mêle à la vôtre. Allez en paix à jamais. Amen.